18h32, merci d'être là, notre ami Alain Pronkin, spécialiste des religions et collaborateur au 98.5, qui est au bout du fil. Il a un nouveau livre en librairie, un autre livre sur la religion. Salut Alain.
Oui, bonjour Patrick.
Donc Alain, on va parler dans quelques secondes, dans quelques minutes de ton livre, Le plus grand secret du Vatican, crimes sexuels et Église. Mais avant, je veux qu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis parce que, bon, il y a plusieurs angles, hein, militaires, social, policiers, etc. Il y a un angle religieux aussi, ne serait-ce que parce que Trump a traversé la rue qui est devant la Maison-Blanche pour aller poser devant une église. Mais aujourd'hui, il y a le révérend américain Al Sharpton qui a critiqué Justin Trudeau. Qui est Al Sharpton?
Al Sharpton, bon, c'est un baptiste, c'est un révérend. Et ce qui est important, c'est un gars qui s'est déjà présenté à la chefferie du Parti démocrate contre Barack Obama en 2004. Donc, c'est quelqu'un de très politique. Je pense qu'il s'est même présenté pour devenir maire de New York. Il a fait des...
En 2004, Alain?
Oui, en 2004.
Parce que Obama était pas... Obama s'est présenté en 2008, je pense.
2004-2008. Ou 2008, mais en tout cas, il...
OK. Mais c'est un ancien candidat à la présidence. OK, parfait.
Je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine, mais il s'est présenté en 2004. Puis en 2008, bien, il est allé au bureau d'Obama quand Obama a été élu. Puis okay. il a rencontré... Donc, c'est quelqu'un qui a rencontré tous les présidents. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement politique. C'est quelqu'un qui fait les éloges aux funérailles. Il a fait les éloges aux funérailles de Michael Jackson, Aretha Franklin et aussi Stephen Clark. C'est quelqu'un qui a été tué en 2018 par des policiers. Il était chez sa grand-mère, je pense qu'il avait 18 ou 20 ans, et il a été abattu dans la cour de la résidence de ses grands-parents. Et là, ce qu'il a fait aujourd'hui, il a fait l'éloge funèbre de George Floyd, parce que Floyd, ses funérailles, ça va être lundi prochain. Donc là, il a fait l'éloge et il s'est présenté. Et quand il y a eu, évidemment, un journaliste canadien qui a posé la question, je crois que c'est hier, bien lui, il dit, écoutez, par rapport, ça ne me prendra pas 21 secondes avant de dire ce que j'ai à dire. Et il est revenu là-dessus. Et il ne faut pas oublier qu'il avait aussi critiqué Justin Trudeau dans les fameux épisodes du Blackface.
Ah, OK, oui, c'est vrai, j'avais
oublié
ça.
Il l'avait fait aussi.
Oui.
Donc, c'est quelqu'un qui est très politique et qui défend la cause, évidemment, des Afro-Américains. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit il y a à peu près une heure ou une heure et demie, il dit « Get your knee off our necks ».
Next. Enlevez votre genou de notre cou collectif.
Oui, ouais. De nos coups collectifs. Et il est revenu sur la question que, bon, on est sur un racisme pandémique, et il est revenu sur que le peuple afro-américain a toujours un genou sur son cou en matière de santé, en matière d'éducation, dans toutes les sphères de la société américaine. Donc, c'est un discours beaucoup plus politique. Mais Sharpton, c'est ça, c'est un baptiste, c'est un révérend, et là, dans ces causes-là, où, évidemment, il prend toujours la défense des Afro-Américains, mais aussi, il remarque, puis il le dit, il y a beaucoup de manifestations où les Noirs et les Blancs, nous sommes ensemble.
Alain, je veux aussi qu'on parle de Donald Trump qui a traversé, disons, la place devant la Maison-Blanche pour aller à l'église des présidents, là,
oui.
Et aussi qui est allé à une sorte de monument en hommage à Jean-Paul II. Ouais. C'est quoi le lien entre Jean-Paul II et Donald Trump?
C'est que Donald Trump ratisse large. Il veut aller chercher les catholiques. Il a été rencontrer le pape François, puis on s'en souviendra, les photos mémorables qu'il avait eues avec François et
oui.
Donald Trump.
Le pape François n'a pas l'air bien enthousiaste.
Non, et Donald Trump non plus. Donc, c'est quelqu'un... Et il s'est dit, il faut que j'aille chercher la ferveur des catholiques. Jean-Paul II vient... On vient de célébrer, entre guillemets, les 100 ans de sa naissance. Ça fait pas tellement longtemps. Et il dit, je vais aller prendre des photos là. Quand il est allé avec sa Bible, c'était des épiscopaliens. Les épiscopaliens, c'est les anglicans américains. Et il est allé là pour une photo. Mais ce qu'il a réussi à tirer, c'est la faute de tout le monde. C'est parce que l'Église épiscopalienne n'était pas contente. Elle dit, c'est pas ça qu'il faut faire avec la Bible. Je pense que vous devriez lire la Bible, ou au moins ouvrir la Bible. Du côté des catholiques, on dit, non, vous pouvez pas prendre un symbole, vous pouvez pas aller dans un sanctuaire pour faire de la politique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la politique pour essayer d'aller chercher des votes. Parce qu'il faut pas se le cacher, le président Trump, c'est quelqu'un qui veut aller chercher des votes pour sa réélection. Et le côté, bon, souvent les sondages aux États-Unis ont révélé que beaucoup d'évangéliques blancs américains votent pour lui. Et il ne veut pas perdre son vote.
OK, donc c'est vraiment une manœuvre, là, parce que, je veux dire, avant d'entrer en politique, Donald Trump puis la religion, c'était pas...
C'est deux
ça se mélangeait pas, là.
Non, ça se mélangeait pas. Mais maintenant, il sait que sa base politique est là, donc il faut aller chercher les votes de la base politique. Mais les dirigeants des différentes églises l'ont pas tellement apprécié.
OK, on va parler de ton livre, Alain Pronkine. Oui. Le plus grand secret du Vatican, c'est quoi le plus grand secret du Vatican?
Ben, c'est les crimes sexuels. C'est ça qui est important, c'est qu'on a des crimes sexuels, on a des agressions sur des enfants, et je me suis intéressé évidemment à cette question-là parce que ça faisait partie de l'actualité, et parce que l'an dernier, il y avait j'appelle ça un congrès, mais une réunion extraordinaire des présidents de toutes les conférences épiscopales au monde, des présidents des évêques au monde, qui avait lieu au Vatican sur la question des abus sexuels des membres du clergé sur des enfants. Fait que j'ai dit, il faut j'ai couvrir ça, et j'ai appris des choses étonnantes. C'est là où j'ai appris, entre autres, puis on l'avait diffusé à cette époque-là, que des dossiers avaient été détruits. Ça veut dire que des gens se plaignaient, puis les dossiers n'étaient pas ouverts ou étaient détruits. Puis ça, c'était le cardinal Marx qui avait sorti ça. Et il y avait plusieurs scandales. Et là, j'ai fait une recherche, j'ai dit, il est où le problème? Et c'est là où, quand on fouille, on s'aperçoit que les premières manifestations remontent depuis 1622, Patrick. Déjà depuis 1622, on se disait, bon, ben, la première infraction, c'était des prêtres qui agressaient, ils faisaient des agressions sexuelles dans les confessionnals. Et là, ce qu'on s'est dit, s'il y a une agression dans un confessionnal, Dieu est présent. Donc, comment faire pour que les gens témoignent, mais qu'on ne viole pas le secret? Et c'est là où on a commencé à introduire ce que j'appelle, moi, la théorie du secret, le secret absolu. Ça veut dire que ceux qui vont entendre la cause, c'est des curés qui ont des doctorats en droit canonique, et qui vont s'assurer, qui vont prêter serment que rien de ce qu'ils vont apprendre ne va être divulgué. Et tranquillement, le secret de ces crimes-là s'est développé jusqu'à une certaine époque où on dit, écoutez, je pense à partir de 1922 jusqu'à tout récemment, il y avait des directives du Vatican qui devaient être conservées dans ce qu'on appelle les dossiers secrets ou les dossiers privés des évêques. Et c'est vraiment une théorie, c'est vraiment cette théorie du secret-là, c'est pour ça que j'appelle ça le plus grand secret du Vatican, qui s'est développée et qui a fait en sorte que les victimes ont été lésées, les victimes d'agressions sexuelles par des prêtres. Écoute, puis là, c'est un sujet qui arrive d'actualité en ce moment avec la prescription, mais la prescription, au tout début, c'était quelques mois. Et par la suite, sous Jean-Paul II, quand on a commencé à sentir que la soupe chaude s'en venait, on a monté ça à 5 ans, puis 10 ans. Et finalement, sous Benoît XVI, on a dit les prescriptions, c'est 20 ans à partir du moment où la personne devient majeure pour faire une plainte. Et même dans certains cas, on dit, il n'y en a plus de prescription. Mais là, c'est le problème de la rétroactivité. Mais là, au Québec, on veut enlever la prescription en matière de crime sexuel.
Oui, il y a un projet de loi qui a été déposé.
Il y a un projet de loi qui a été déposé aujourd'hui à cet effet-là. Et c'est ça que je vais sortir. Et jusqu'à la position des évêques canadiens, qui a fait un document sur la question en 2018, où là, à partir des observations en droit canonique, à partir de ce qui est arrivé à Rome, je critique leur position. Mais il y a des choses, puis dans ce livre-là, ben, je vais parler des cardinaux les plus importants qui ont été pris dans des affaires sexuelles, le cardinal Barbarin, McCarrick, et à partir de ce qui arrive dans ces dossiers-là, je développe et j'explique où la fameuse théorie du secret là qui existe constamment. Puis il y a une chose, puis ça, je voulais t'en parler, Patrick, j'en ai déjà parlé en nombre, on parle évidemment du Canada, on parle évidemment du Québec, on parle de Southdown. C'est quoi Southdown? C'est des centres de thérapie où on prenait les prêtres, on les envoyait en thérapie, puis on disait, bon, ben, on a un certificat comme quoi il est guéri. Et ça, c'était la mode des années 60 à 85.
Wow.
Et même le Vatican le reconnaît. Le Vatican, dans ses documents, puis qui s'est répertorié dans les livres, dit, écoutez, on pensait qu'on pouvait, en guillemets, là, je n'aime pas l'expression, les guérir. Et on a utilisé ça dans les années 60 à 85.
Mais Alain, écoute, oui. Tu es un spécialiste des religions, et là, ton nouveau livre, là, Le plus grand secret du Vatican porte sur les crimes sexuels à l'intérieur de l'Église. Comment ça se compare, l'Église, le catholicisme, là, aux autres religions? Y a-t-il quelque chose de particulier à l'Église catholique qui fait qu'il y a tant de scandales sexuels, ou il y en a chez les Juifs, il y en a chez les musulmans, il y en a chez les autres dénominations chrétiennes?
Il y en a partout. En Australie, quand ils ont fait leur étude là, sur les crimes sexuels, ben, ils disent que c'est pas juste l'Église catholique. Et on est allé chercher la même chose dans l'islam, on est allé chercher la même chose dans le judaïsme, dans les mouvements comme les Témoins de Jéhovah. On a reçu au-delà de 1000 cas. Et c'est la même chose. C'est cette fameuse théorie du secret et qui existe depuis longtemps. Et on l'observe dans chaque religion, même chez les Mormons aux États-Unis, on l'observe, chez les Baptistes, on l'observe partout. Mais dans le cas de l'Église catholique, ça fait partie de notre réalité quotidienne. Écoute, 80-85% des Québécois étaient catholiques. Aujourd'hui, c'est un peu moins que ça. Donc, c'est notre réalité.
Dirais-tu que dans l'Église catholique, à cause de la structure, OK, parce que c'est vraiment une organisation, je veux dire, il y a un chef en haut qui s'appelle le pape, pas oui. beaucoup d'autres religions qui ont ça, dirais-tu qu'il y a comme une responsabilité supplémentaire, justement, parce qu'il y a une organisation, une hiérarchie, des secrets, des ordres?
Il y a ça, mais ça existe dans les autres religions. C'est que, bon, chez les catholiques, tu as un pape, tu peux dire, bon, on l'identifie, il y a un chef. Mais dans les autres religions, tu vas avoir, dans l'islam ou chez les juifs, tu vas avoir des groupes, tu vas avoir un certain nombre d'imams ou un certain nombre de...
Mais qui ne sont pas des chefs comme, au sens où on l'entend comme pour le pape,
mais qui ont une influence majeure sur la société. Donc, mais c'est différent. C'est que vraiment, chez les catholiques, on a vraiment cette structure-là où tu as une prise de décision. Quand tu vois que dans un document officiel du Vatican, on dit oui, de 1960 à 80, on les envoyait en thérapie, on pensait que c'était bien, puis on vient de se rendre compte que c'était pas correct. On s'aperçoit que tu as une structure derrière ça. Tu as une pensée qui était à ce niveau-là. Puis même le pape l'a reconnu quand il a dit, écoutez, jusqu'à telle époque, bon, on déplaçait nos prêtres d'un diocèse à l'autre.
Oui, c'était la technique éprouvée dans tous les diocèses dans le monde. Là.
Dans le monde. Et là, le pape l'a reconnu, bon, quand il discutait, il a dit, écoute, on le faisait, mais là, on le fait plus. Mais là, c'est bien beau qu'on le fait plus, mais est où la transparence? Parce qu'on dit, si on veut sortir de ce carcan-là, parce que des scandales, il y en a un, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, il faut mettre de la transparence. Parfait. Elle est où, la transparence? Et puis là, ce qu'on semblait dire, parce que le pape a félicité les victimes qui se sont levées pour dénoncer ce qui est arrivé, et les journalistes qui ont, comme mettons les gars de Boston, là, du Boston Globe, là, dans l'affaire du fameux scandale du cardinal là, ils félicitent. Mais d'autre part, ils disent, bon, ben maintenant, il faut régler le problème une fois pour toutes, on fait des comités, on fait ci, on fait ça. Mais les laïcs ne sont pas impliqués dans la prise de décision.
Ça te dit quoi, ça?
Bien, ça me dit, c'est qu'il va falloir que les journalistes recommencent à faire leur travail comme ils font.
OK, mais est-ce que le pape François, disons, est plus ouvert, plus combatif que ses prédécesseurs sur cet enjeu-là?
Bien, sur un enjeu, oui, parce que là, il y a une nouvelle disposition qui vient d'entrer en vigueur, Patrick, lundi de cette semaine, le 1er juin, qui est que maintenant, dans les communautés religieuses, tu es obligé de signaler un confrère qui est pédophile, si tu as des soupçons. Ça, c'est nouveau. Et là, il s'agit de voir, est-ce qu'il va y avoir des dénonciations à l'interne? Parce que cette obligation, elle est obligatoire maintenant. Ça, c'est nouveau. Après ça, il y a levé, puis ça, c'est important, ce qu'on appelle le secret pontifical. Tu sais, le fameux secret, bien là, c'est le secret pontifical, on ne dit rien à personne. Ça, il l'a levé. Mais est-ce que maintenant, les victimes vont dire, j'ai fait une plainte, mettons, en 1975 ou en 1980, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé de ma plainte. Parce que ça allait aussi loin que ça, Patrick. Tu faisais une plainte pour agression sexuelle contre un prêtre et tu ne savais plus rien. Et ça, ça a changé. Mais est-ce que ça a changé pour le passé?
OK. Dernière question.
Oui.
Dernière question, Alain Pronkin, là. Puis c'est peut-être... C'est... On se compare comment au Québec, le clergé québécois, là, toi, tu connais comment les autres clergés dans le monde ont affronté ces démons-là, les démons de la pédophilie. Là.
Ouais.
Le Québec se compare comment en termes de proactivité avec les autres diocèses dans le monde?
Si je me regarde par rapport aux États-Unis, on est moins actifs. Aux États-Unis, on était beaucoup plus actifs. On a divulgué des listes de prêtres pédophiles, qui n'étaient pas complètes, mais on a divulgué. Ici, c'est pas encore le cas. Maintenant, on commence à Montréal. C'est triste, on a eu la juge Trahan qui avait été nommée
et
qui
décédé,
est décédée. Oui. C'est triste. Bon, il n'y a pas eu de remplaçant à date. On sait qu'à Vancouver, ben là, on a mis au niveau des évêques canadiens un comité sur la question. Mais on ne nous dit pas tous les noms des personnes qui sont sur ces comités-là parce que c'est un peu secret. Tandis qu'en France, on a vraiment la commission de mémoire, c'est la commission Sauvé, qui, elle, fait une étude exhaustive, et cette commission-là va étudier dans tous les cas, que ce soit les diocèses ou les communautés religieuses. On est beaucoup plus proactif en France. C'est sûr qu'avec la pandémie, tout a pris un retard. Mais aux États-Unis, on est actif aussi. Écoute, il y a des communautés qui donnent leur la liste des pédophiles. Moi, j'appelle ça, c'est un côté positif. Oui. On y va dans la transparence. Mais t'as d'autres endroits du monde, comme la Pologne, où ça commence. Donc, la Pologne, on commence à se réveiller. Au Chili, la même chose.
Donc, le clergé québécois n'est pas en queue de peloton, mais on n'est pas parmi les meilleurs.
On n'est pas en avant.
Parfait.
On n'est pas en avant non plus.
Merci, Alain. Bonne soirée.
D'accord. Bonne soirée, Patrick.
Alain Pronkin, spécialiste des religions, collaborateur à 98.5 et auteur d'un nouveau livre, Le plus grand secret du Vatican, Crimes sexuels et Église, les 18h47.